quoi vous pensez.
Vas-y.
Oui, bah oui, c'est sûr. Donc j'ai marqué, voilà, Asie.
Bouddha.
Bouddha, Bouddha, ouais, bah voilà le... Hein.
Statue. Là.
Statue. C'est un T, hein.
Ouais.
Non. Non, c'est un E. C'est un E, ouais, ça c'est le statut de l'association, ouais. Hein. Ouais. Voilà, merci. Merci, ouais.
Spirituel, spirituel.
Ouais, spiritualité, tout à fait, ouais.
Méditation.
Méditation, ouais, effectivement, c'est fait.
Végétarien.
Végétarien.
Les bouddhistes sont connus.
Idole.
Idole.
Réincarnation.
Réincarnation. Alors voilà, il y a de, pas mal de. Et que, quelle image ça dégage quand on dit bouddhisme ?
Style de vie.
Style ouais. De vie, ouais. Alors, ouais, d'autres choses, bouddhisme, ce... Voilà, on a déjà quelques idées, mais on va revenir dessus en fonction. Donc déjà, une question aussi, est-ce que quelqu'un, je sais pas, était bouddhiste ou... Non ? Ou peut-être vient de famille bouddhiste ? Non ? Oui ? Tu dis oui ? Tes parents ? Ouais. Et toi, t'as grandi dans le bouddhisme ou pas ? Ouais, ok. Donc, bah, sans doute, tu pourras me compléter avec des choses, si... Mais on verra. En tout cas, moi, je le connais pas de l'intérieur, le bouddhisme, mais voilà, j'ai lu des petites choses dessus, et c'est intéressant, parce qu'en fait, bien que ce soit né en Asie, en fait, Bouddha est né au Laos, mais ça s'est développé en Inde. En fait, ça a pas mal de sa bonne presse en Europe, en fait, le bouddhisme. Bon, même si, en fait, en France, il n'y a que 1% des gens qui se revendiquent du bouddhisme, et sur ces 1%, il y en a quand même 2/3 qui viennent d'Asie, mais quand même, c'est une religion qui attire. Voilà. Alors, voilà, bon, en France, il y a à peu près, c'est difficile à estimer, mais on dit, voilà, 600 000 adeptes en France, donc environ 1% de la population. Bon, ça, c'est des chiffres de 2016. Hein. Mais par contre, on estime qu'il y a 5 millions de sympathisants au bouddhisme. Alors, Bouddha, donc, en fait, son nom, c'était donc Siddhartha Gautama. Il a vécu de 660 à 480 avant Jésus-Christ. Donc voilà, en gros, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et donc, il est appelé le Bouddha. Et le Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Hein, celui qui est éveillé ou illuminé. En fait, c'était un prince. Et d'une famille, en tout cas, influente. Et à un moment donné, il fait 4 rencontres qui vont changer sa vie. Il rencontre un vieillard. Il rencontre un mendiant. Il croise un cortège funéraire et finalement il croise un moine, donc hindou, qui a l'air heureux. Et donc il se met à faire des exercices de spiritualité, notamment dans l'ascétisme. Donc l'ascétisme, c'est se priver de nourriture, de plein de choses, de sommeil, etc. Enfin, pas toujours, mais voilà. Et donc cela l'amène à se dire, ben c'est pas forcément la voie à suivre. Et du coup, lui, ce qu'il va prôner, c'est la voie moyenne, donc un équilibre entre de l'ascétisme et une société de luxe et de confort. Donc voilà pour le personnage, donc Siddhartha Gautama. Et alors, donc, il a vécu une illumination. Il aurait eu connaissance de ses vies antérieures, connaissance de la réincarnation et connaissance des 4 nobles vérités dont on va parler. C'est un peu la doctrine bouddhiste. Donc son enseignement peut être considéré comme une réaction à l'hindouisme dont il est issu, et il s'attaque au problème de l'humanité, problème majeur de l'humanité, la souffrance. Voilà, la souffrance, tout être qui vit souffre, et donc quelque part le bouddhisme est une réponse à la souffrance. Donc le but du Bouddha est d'indiquer aux humains le chemin vers la délivrance de la souffrance. Donc cette délivrance finale est appelée par Nirvana. Donc justement, on va revenir dessus sur les concepts importants du bouddhisme. Donc il y a j'ai oublié une lettre, le Nirvana. Nirvana, donc qu'est-ce que c'est? C'est cet état final de délivrance par rapport à la souffrance. Donc c'est un état qui est caractérisé par une absence d'agir, de penser, de désir, de parler, de passion. Voilà. En fait, c'est une extinction de sa personne dans l'absolu, on pourrait dire. Souvent, c'est l'image de la goutte qui se fond dans l'eau, quoi. Enfin, la goutte qui tombe dans l'eau et qui se mélange. En fait, on pourrait presque dire que le but du bouddhisme, c'est de s'éteindre, et quelque part, c'est un objectif qui nous paraît assez démoralisant, quoi. Donc, s'éteindre pour ne plus être confronté à la souffrance. Donc, c'est bon, le nirvana, c'est cette délivrance finale qui permet, qui est caractérisée par une absence de désir, de sentiment, finalement, une extinction de l'être dans le grand tout. Alors, la loi du karma, c'est quoi la loi du karma? C'est tout simplement que on récolte ce que l'on sème, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait a un effet et on récolte ce qu'on a semé. Et quelque part, le capital que l'on reçoit à la naissance nous est donné à cause de ce qui a été fait dans une vie précédente. Donc, la loi du karma, c'est la loi que ce qui nous arrive, c'est à cause de ce qu'on a semé soit dans cette vie, soit dans une vie précédente. Et donc, ce qui va nous arriver dans la vie suivante va dépendre de ce qu'on a semé dans cette vie-là. Donc ça, c'est justement samsara, c'est la réincarnation, hein. C'est le principe de réincarnation. Donc, la réincarnation est vue un peu comme un écoulement de son être qui va se reformer dans une autre créature. Donc la mort n'est pas la fin, et le samsara, la réincarnation, c'est un cycle qui est très très long. On peut compter des milliards de réincarnations avant d'arriver au nirvana. Donc c'est quelque chose de terrible. En fait, on pourrait voir en tant qu'Occident, ouais, la réincarnation c'est super, on a une deuxième chance. Mais en fait, c'est une malédiction de se réincarner parce qu'on va encore souffrir. On n'a pas encore réussi à être délivré de la souffrance et à se fondre dans l'infini. Donc finalement, les réincarnations, c'est plutôt vu, voilà, un peu comme une nouvelle souffrance. Et puis, un autre principe, c'est l'impermanence, anicca. Donc rien n'est permanent et stable. En fait, tout passe par la naissance, la décadence et la mort. Enfin, naissance, croissance, décadence et mort. Donc rien n'est permanent. Et y compris, finalement, le moi, c'est une réalité qui va changer. Et d'ailleurs, on va voir quand on voit les quatre nobles vérités, c'est ça qui est aussi une cause de souffrance, c'est qu'on s'attache à quelque chose qui n'est pas permanent. Parce que la personne aimée, par exemple, va un jour mourir. Donc ça nous provoque de la souffrance. Voilà. Donc on arrive, donc ça c'est un concept important, aux quatre nobles vérités. Donc, les quatre nobles vérités, la première vérité, c'est l'universalité de la souffrance. Donc, tout est souffrance. L'existence est souffrance. Toute vie est marquée par la souffrance. La deuxième vérité, ça concerne l'origine de la souffrance. Donc, on souffre parce que nous avons des désirs qui se portent sur des choses éphémères. Puisque tout est éphémère, tout passe par un cycle de croissance, décroissance et mort. Et donc, nous souffrons parce que nous avons des désirs et que ces désirs se portent sur des choses éphémères. La troisième noble vérité, c'est quelque part la voie pour supprimer le désir. Donc, enfin, non, plutôt, c'est la modalité pour être débarrassé de la souffrance, c'est le nirvana, donc la suppression du désir pour atteindre la délivrance finale, le nirvana. Donc il existe un état que l'on doit rechercher, qui est la suppression du désir, le fait que on se dissout dans l'absolu. Et finalement, le chemin qui conduit à la suppression du désir, c'est la noble voie octuple. Et on va revenir dessus. Donc il y a huit principes. Donc en fait, en gros, donc là, c'est la souffrance est universelle. Quelle est l'origine de la souffrance et le désir? Quelle est la solution, c'est nirvana? Et comment on arrive à à la suppression du désir? C'est la noble voie octuple. Donc c'est ça les quatre nobles vérités. Et la dernière, c'est huit points qu'on va voir tout de suite. C'est clair ou ça va? Donc, ouais, pardon? Ouais. Donc, la noble voie octuple. Ah oui, bon, zut, c'est mal mis en page, mais c'est pas grave. Donc, il faut avoir une croyance correcte, donc la croyance dans le bouddhisme. Il faut avoir une pensée correcte, renoncer au désir. Des paroles correctes, donc c'est-à-dire ni dures, ni frivoles, ni mensongères. Et donc, vous voyez, c'est toujours correct, c'est ni dans l'excès, ni dans un excès, ni dans un autre. Des actes corrects, donc ni vol, ni impureté, ni violence. Une occupation correcte, qui ne porte pas préjudice à un autre être vivant. Un effort correct pour atteindre le but, le nirvana. Donc la concentration, on va revenir après dessus un petit peu sur le... Ah non, c'est pas encore la méditation, là, c'est la concentration d'abord. Et ensuite, une méditation correcte. Et puis, à la fin, donc une absorption correcte, le nirvana. Donc ça constitue la quatrième noble vérité. Ouais.
C'est-à-dire quand on dit correct, c'est par rapport à quoi? Parce que s'ils disent ni vol ni impureté, mais c'est que ça a été déjà dit avant quelque part.
Ouais. Alors, mais effectivement, tu poses une bonne question parce qu'en fait, le Bouddha lui-même n'a pas transmis de révélation écrite. Enfin, il y a ces discours qui ont été mis par écrit. Donc c'est pas comme dans la Bible où voilà. Et, correct, c'est un peu une question d'équilibre, tu vois. C'est ni dans un excès, ni dans un autre. Après, voilà, peut-être quelqu'un qui est plus au courant pourra mieux le définir, mais c'est la voie moyenne, quoi, en fait. Ouais.
Bah, s'il y a ni écrit qui disent que ce qui définisse le correct, ben, le correct est subjectif, du coup, donc je peux dire que je suis bouddhiste, alors qu'on n'a pas vraiment défini c'est quoi les actes corrects.
Mais justement, en fait, il n'y a pas, par exemple, tu peux dire que tu es bouddhiste, et personne ne pourrait dire oui ou non, parce que, en fait, il n'y a pas de confession de foi dans le bouddhisme. C'est juste, tu suis l'enseignement de Bouddha, alors tu es bouddhiste. Tu vois? Par exemple, nous, on dit, bah, pour être chrétien, il y a une doctrine à réciter, enfin, même si on ne la récite pas, mais bon, faut croire aux essentiels, voilà, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort pour nos péchés, on se repent et on place notre foi en lui, et donc là, à partir de là, on va dire, bah, je suis chrétien. Mais dans le bouddhisme, il y a pas forcément de doctrine, peut-être juste les quatre vérités. C'est-à-dire tu suis l'enseignement du Bouddha et t'es bouddhiste. Ouais, donc effectivement, il y a un côté très très subjectif.
Du coup, la quatrième vérité nous permet de suivre ça.
Ouais. Alors ouais, mais tu vois, ça c'est plutôt un chemin de vie, tu vois, ça c'est une orientation qu'un truc à réciter.
Donc ils peuvent choisir juste de suivre deux parmi les quatre et.
Alors ouais, après ça, je sais pas. Je pense que si tu suis, tu t'engages à suivre tout, tu vois. Mais bon, après il y a des textes qui ont été écrits, mais pas directement par Bouddha. Quoi. Donc de ses discours, ça a été mis par écrit. Puis après il y a d'autres écrits. Mais effectivement, il y a pas de normes comme dans le christianisme peut y avoir. Alors il y a aussi quand même un code de morale, il y a les 10 interdits, donc, c'est marrant, il y a les 10 commandements dans la Bible, et là il y a les 10 interdits, voilà c'est tout petit. Donc ne pas tuer un être vivant, ne pas voler, ne pas avoir de rapports sexuels illégaux, alors c'est pareil, il faudrait pouvoir le définir, ne pas mentir, ne pas boire des intoxicants, donc notamment les drogues, quoi. Enfin boire ou consommer d'une autre manière. Ne pas manger aux heures défendues. Alors, j'ai pas recherché quelles étaient les heures défendues. S'abstenir de danser, de chanter, de tout spectacle. S'abstenir d'orner ou d'embellir sa personne. Ben ça, on le voit par exemple pour les moines, ils sont vêtus de manière extrêmement simple, quoi. Ne pas faire usage d'un lit ou d'un siège élevé. Je pense que c'est pour l'humilité, ça, en fait. Hein. Je pense que, enfin, à mon avis, c'est pas apprendre d'un sens littéral, mais c'est ne pas se mettre dans une position de supériorité. S'abstenir de recevoir de l'or ou de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est un code moral. Hein. C'est l'éthique morale du Bouddha, quoi, les 10 interdits. Oui.
Ne pas tuer un être vivant humain, être vivant animal, insecte.
Même animal, parce qu'en fait, tu sais, c'est derrière aussi la pensée de la réincarnation, tu vois. Et je pense que ça rejoint le végétarien, tu vois. Après, bon, voilà, on suit sans doute des êtres vivants sans s'en rendre compte, tu vois, quand on marche par terre, on écrase les fourmis ou tout ça, mais bon. Je pense que dans un certains qui veulent le respecter de manière extrême, voilà, font attention, quoi. Ben, je me souviens à l'époque j'avais vu un film qui s'appelait 7 ans au Tibet. Enfin c'est un vieux film et à un moment donné ils veulent construire un chemin de fer et ils se rendent compte que quand ils creusent, ben voilà, il y a des vers de terre et tout. Alors ils les prennent, ils les mettent sur le côté et tout et alors ça ralentit le projet, quoi. Mais après, voilà, tout le monde, je pense, n'obéit pas à fond à tout. Alors, la méditation, c'est la méthode du Bouddha. Il s'agit donc d'éviter le désir d'atteindre la délivrance. Donc, ce sont des exercices pour, en fait, éviter le désir. Hein. Il s'agit de se vider de tout, de ses désirs, de ses pensées, de ses sentiments. Donc le but est de faire le vide, hein, la vacuité, il y a un terme bon, indien, quoi, sunyata. Et donc il y a plusieurs types de méditation, il y a des méditations d'objet, il y a la méditation sans objet, et la méditation de paradoxe, donc c'est dans le bouddhisme zen. Il y a la méditation à l'aide d'un mantra, donc c'est des sons répétés pour aider à se concentrer, quoi. Donc il y a plusieurs types. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi plusieurs courants dans le bouddhisme. Hein, mais là, ça c'est des vérités assez générales. Donc celui qui médite commence par prendre conscience des stimuli extérieurs par rapport à son corps. Par exemple, alors ça c'est une image, hein, mais l'odeur d'un plat ou la fraîcheur du vent. Voilà, on prend conscience. Puis ensuite, on essaye de contrôler ses sentiments et ses réactions par rapport à ça. On se convainc qu'il n'existe ni plat, ni vent, et on ne réagit pas à ces stimuli, à ces simulations. Et puis, en fait, le but final, c'est finalement d'arriver à parvenir à l'état aussi de se considérer même soi-même comme une illusion. De même que tous les stimuli, on a essayé de s'en séparer. Et donc d'arriver à se dire, voilà, je ne suis pas, je ne fais que m'imaginer être là. Donc c'est en fait, la méditation, c'est un exercice de détachement par rapport à nos désirs et à toutes les stimulations extérieures. Voilà, donc maintenant, voilà, ce qu'on peut essayer de se dire, mais c'est comment répondre en tant que chrétien à quelqu'un qui est bouddhiste sur quels sont les ponts qu'on peut faire, quelles sont les erreurs. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir donc une approche relationnelle. Les personnes bouddhistes seront à l'aise dans une relation plutôt que juste voilà, bam, 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 donner des vérités, parce qu'on est très loin aussi de ce qu'on aimerait faire comprendre. L'évangile doit être intégral, c'est-à-dire que, souvenez-vous, le bouddhisme est né comme une réponse à la souffrance, comme un moyen de se débarrasser de la souffrance. Et donc, si dans notre évangélisation, on peut être intégral, c'est-à-dire pas seulement parler à la tête, mais aussi aux besoins des gens, et aussi montrer comment le christianisme apporte une solution aussi à la souffrance, qui est différente, hein, ce qui n'est pas de se couper, mais de soigner les gens qui souffrent, d'en prendre soin, ça peut toucher. Parler donc avec une communication verbale indirecte, utiliser des histoires, des paraboles, des images. Et puis quelque part, on peut essayer, comme toujours, de jeter des ponts. C'est-à-dire, le but, c'est il y a un but éthique, voilà, de se séparer des désirs, tout ça, et on peut dire, mais est-ce qu'on y arrive? Et comment, finalement, le christianisme parle aussi d'une voie éthique, mais qui est totalement différente, qui est en fait de recevoir le pardon de nos péchés et de s'engager à progresser à l'image de Christ, à l'aide du Saint-Esprit. Puis peut-être qu'on peut faire un pont entre nos 10 commandements et les 10 interdits, même s'ils sont pas pareils, mais voilà, dire qu'on a un code éthique. Et bon, après, on verra d'autres pistes, ça c'est de manière un peu générale, mais attention au malentendu, et ça j'ai trouvé que c'était assez rigolo, parce que il y a un verset qu'on aime beaucoup dans l'évangélisation, c'est Jean 3,16. Donc, alors, on va le faire, et on va se mettre dans la peau d'un bouddhiste, et c'est difficile, parce que déjà, car Dieu, bon, Dieu, dans le bouddhisme, il y a pas forcément de Dieu, hein, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, c'est plutôt une sagesse qui nous amène à être délivrés de la souffrance. C'est pas une philosophie ou une religion qui considère un dieu. Quoique dans un certain mouvement du bouddhisme, il y a des êtres qui sont arrivés au nirvana et qui permettent de nous communiquer leurs mérites et qui sont presque des dieux, quoi. Mais bon, dans le bouddhisme traditionnel, il n'y a pas de dieu. Et donc, bon, on commence déjà, Dieu a tant aimé. Bon, Dieu, bon, est-ce qu'il n'existe pas? A tant aimé. Aimer, c'est une passion, c'est une émotion. Et alors le désir, c'est ce que nous on veut fuir, parce que le désir est cause de souffrance. Donc quand Dieu a tant aimé le monde, donc qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, alors voilà, donc c'est ça. Là il y a cet effet de transfert, afin que quiconque croit, donc ne périsse point, mais la vie éternelle. C'est on croit donc que Jésus-Christ nous transfère ses mérites et prend notre culpabilité. Et il n'y a pas ça dans le bouddhisme traditionnel. Bon, dans le bouddhisme qui s'appelle le grand véhicule, il y a un petit peu cette notion que quelqu'un d'autre peut nous accorder ses mérites, mais voilà, ça peut être mal compris. Et puis finalement, et la vie éternelle, mais surtout pas la vie éternelle. vous comprenez, dans le sens que, parce que la vie est cause de souffrance, et ce qu'on veut, c'est justement se débarrasser et se fondre dans l'infini. Donc c'est justement, enfin c'est voilà, c'est pour faire réagir en disant que des fois c'est pas on peut peut-être faire des maladresses à en disant les choses, et c'est pour ça qu'il faut définir les choses. Faut presque repartir de zéro, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, donc, voilà, ouais, la vie éternelle, donc c'est ce qu'on essaye de fuir, parce que la vie est cause de souffrance. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est plutôt repartir de début, Dieu, et dire que voilà, il est le Créateur, il est plus grand que tous les êtres humains. On pourrait parler de l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. Son identité est maintenue jusque dans l'au-delà, et ça c'est différent. Dans le bouddhisme, on essaie de se fondre dans l'infini, alors que là, bah, c'est notre personne qui va être sauvée. Donc il y a une différence avec l'impermanence, avec voilà, parce que notre personne perdure. Le mal, c'est Satan qui l'introduit dans l'humanité. Donc voilà, le mal est une aberration de l'humanité, de la création. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, que tout est souffrance, mais le mal fait partie parce que Satan est venu. Le péché, c'est ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est autre chose que simplement transgresser les 10 interdits ou la question du karma. C'est autre chose. Le péché, c'est ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et finalement, le salut qui s'obtient donc par la foi dans le sacrifice de Jésus, et c'est différent des mérites obtenus par nous-mêmes ou par dans le grand véhicule, ce qu'on appelle les bodhisattva, donc c'est gens qui ont réussi à atteindre le nirvana, mais qui ont décidé plutôt de pas y aller afin de transférer certains de leurs mérites aux autres. Alors moi, je pense que pour un bouddhiste, on peut poser des questions. Donc, alors, est-ce vraiment désirable d'atteindre le nirvana? Enfin, bon, désirable, on va dire, c'est déjà, on ne veut pas désirer, mais quelqu'un dont le but de la vie est de disparaître, on peut dire, mais est-ce que ça te convient comme philosophie de finalement te dire que ton seul but, c'est de ne plus être là, pour plus souffrir. On peut peut-être aussi poser la question, qui atteint le nirvana ? Parce que en fait, il n'y a aucune garantie. Vous voyez, là je discutais avec un ami, son père était bouddhiste, et il m'a dit, bon, à la fin de sa vie il s'est tourné vers Christ, mais il a dit pendant toute sa vie, il ne savait pas s'il avait réussi à se détacher assez pour atteindre cet état de plénitude. Donc, et même, oui, donc qui peut l'atteindre, mais même qui l'atteint, même la question de qui, si je ne suis pas permanent, ben, est-ce que c'est moi qui suis libéré ? C'est même pas moi. Enfin, donc c'est assez difficile. Alors après, on pourrait aussi dire, est-ce que c'est pas aussi une éthique égoïste ? En fait, le bouddhisme, on fait tout pour que soi-même, on soit débarrassé de la souffrance qui est permanente. Alors bien sûr, ça passe par un code éthique, donc les autres, on ne les néglige pas, mais c'est un code éthique pour soi, dont le but est que notre délivrance personnelle. Donc peut-être le faire réfléchir. Alors bon, quelle preuve pour le nirvana ou pour la réincarnation ? Bon, c'est une belle idée, mais voilà, on n'en sait rien. Alors que dans le christianisme, Jésus-Christ est ressuscité des morts, comme étant un signe de notre résurrection future. Alors bon, là, certains pourraient avoir des arguments, hein, quand même, hein, quand on pose cette question. Certains disent voilà, qu'ils ont des résurgences de vie antérieure qui leur reviennent. Alors bon, après, voilà. Alors, on pourrait poser la question, pour un peu titiller sur la réincarnation, comment un animal peut avoir la sagesse de vouloir progresser ? Si, en fait, si le but de la vie, par exemple, j'ai mal agi, je me retrouve en tant que singe, ou que chien, bah, est-ce que le chien, il peut avoir cette conscience de vouloir faire le bien pour se réincarner en mieux ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on peut faire réfléchir, quoi. Alors bon, on va dire, bon, on l'a mérité, oui, mais bon, le chien, il va quand même vouloir progresser. Mais est-ce qu'il a même cette conscience de vouloir progresser ? A-t-il des désirs qu'il doit arriver à éteindre ? Pour un animal, c'est pas sûr. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Oui, on pourrait même après poser la question, mais un petit peu dans le sens que tu avais posé avant, qu'est-ce que le bien, finalement, si tu n'as pas de référence à un Dieu transcendant qui est hors de nous, comment définir le bien ? Donc voilà quelques pistes de réflexion. Je ne sais pas si vous avez, je veux dire l'heure, ouais, on a encore 5 minutes. Est-ce que vous avez encore, enfin 7 minutes même, est-ce que vous avez des questions ou...
Oui. Est-ce que vous savez s'il y a plusieurs branches de croyances dans le bouddhiste, comme dans la chrétienté, il y a des cathos, il y a des musulmans, ou c'est juste une seule même doctrine ?
Non, en fait, il y a des variantes. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est un peu ce qu'on pourrait dire le bouddhisme, ce qu'on appelle Theravada, donc traditionnel. Ou alors, on l'appelle aussi des fois, bon ça c'est les termes, hein, Hinayana, ça veut dire le petit véhicule. Après, il y a le grand véhicule, qu'on appelle aussi Mahayana. Et donc ça, c'est avec, comme je l'avais mentionné brièvement, c'est donc, il y a les Bodhisattvas, donc les gens qui ont réussi à atteindre le Nirvana, mais qui finalement peuvent transférer leur mérite à d'autres, pour les aider à aller un peu plus vite dans le cycle des réincarnations. Et donc dans le grand véhicule, le Bouddha historique est presque divinisé. Tu vois, on dit que c'est plutôt un être spirituel. C'est presque un dieu, quoi. Donc ça c'est une variante. Après il y a l'école Zen aussi, donc qui encourage la méditation. La méditation silencieuse, donc soit de méditer des paradoxes ou méditer à l'aide de calligraphie, de peinture, de gymnastique ou de tir de flèche, par exemple, donc comme exercice de méditation. Et puis après, il y a après ce qu'on appelle aussi le bouddhisme tibétain, qui est assez médiatisé, notamment par la personne du Dalai Lama. Donc le bouddhisme tibétain, il est assez populaire en Europe. Alors on l'appelle parfois aussi le véhicule du diamant ou Vajrayana. Voilà. Et donc là, il se caractérise par des pratiques comme le yoga, les mantras, donc les répétitions de sons comme ça, des exercices de visualisation et parfois même de rites sexuels.
Ça c'est le plus répandu en France.
Ça c'est le bouddhiste tibétain. Ouais, il est assez à la mode, ouais, en Europe. Ouais.
Du coup, le yoga est forcément lié au bouddhisme.
Ouais. Non, en fait, le yoga c'est.
Yoga, mais c'est pas.
En fait, même le yoga, à la base, c'est une discipline même hindoue, de l'hindouisme, mais donc quand même reprise par le bouddhisme tibétain. Et mais alors, voilà, en fait, il y a yoga et yoga. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont considérer yoga simplement comme un exercice de relaxation, de gymnastique, d'étirement. Mais en fait, derrière, à la base, il y a vraiment une spiritualité. C'est un exercice spirituel, en fait. Donc c'est pour ça le yoga à voir avec prudence quoi. Alors je sais qu'il y a voilà des chrétiens qui refusent toute forme de yoga mais, parce que sachant que c'est à la base un exercice spirituel. Maintenant je pense que ça dépend vachement du maître avec lequel on le fait, enfin ou du formateur. Si c'est bon juste voilà, un gars qui veut faire des étirements.
Déjà que j'appelle maître.
Oui voilà. Ouais c'est ça. Mais justement si il y a plus et c'est souvent ce qu'on recherche quoi. Et ben derrière il y a en fait c'est un exercice spirituel. Ouais. Et puis donc dans le bouddhisme tibétain il y a donc il y a tout ce qui est la doctrine. On entend des fois ce mot chakra. Donc du Kala Chakra, la roue du temps, c'est en fait que le chakra est le centre énergétique de notre corps, et donc on peut à l'aide d'exercices, tout ça, libérer cette énergie. Quoi. Donc l'énergie cosmique, voilà, on peut par des pratiques rejoindre notre énergie, l'énergie cosmique pour la libérer. Donc ça c'est dans le bouddhisme tibétain. Ouais, quelque part, ouais, c'est peut-être, ouais. Effectivement, ouais, c'est voilà, l'énergie, on relie notre énergie interne avec l'énergie cosmique. Et puis donc le Dalai Lama, donc il est le représentant de ce bouddhisme-là. Et en fait, il y a une vision aussi eschatologique donc de la fin des temps dans le bouddhisme tibétain, c'est-à-dire que il y a le roi de Shambhala, qui est un royaume invisible au nord du Tibet. Qui va établir un règne mondial. Et quelque part, alors c'est une vision, hein. Et donc le Dalai Lama, c'est un représentant de ce roi, de ce royaume qui va s'instaurer. Et donc c'est aussi la 14e incarnation du Lama, je ne sais pas exactement comment on prononce, Gendum Grub. Qui est en fait une incarnation d'un Bodhisattva. Donc les Bodhisattva, c'est les gens qui ont atteint le Nirvana, mais qui ont refusé d'y aller, en tout cas tout de suite, pour pouvoir transférer leur mérite à d'autres. Et donc le Dalai Lama serait une incarnation d'un de ces Bodhisattva. Et voilà. Alors Bodhi... Non, je me trompe toujours. Bodhisattva. Voilà, Bodhisattva. Donc voilà, donc il y a plusieurs mouvements quoi. Il y a le bouddhisme traditionnel, le bouddhisme on pourrait dire grand véhicule où donc il y a ces personnes qui peuvent transférer leur mérite, et puis il y a le bouddhisme tibétain, et puis après sans doute il y en a encore d'autres, mais ça c'est les grands courants principaux, donc avec une pratique particulière voilà de la méditation. Mais pour dire ce qu'on disait avant avec la méditation tout ça. Moi, je connais personnellement quelqu'un qui faisait beaucoup de méditation comme ça. Et en fait, en méditant, alors il n'était pas, il se dirait pas bouddhiste, mais il faisait la méditation pour la méditation, quoi. Et en faisant des exercices de méditation qu'il faisait de manière très intensive, hein, il se levait à 4 heures du matin pour faire 2 heures de méditation avant d'aller au travail, quoi. Et en faisant un exercice de méditation, il a vécu quelque chose de très fort, une expérience spirituelle qui lui a fait très très peur. Il a dit mais c'est pas possible. Et du coup, bon alors c'est ça que, finalement qui a été un déclencheur pour qu'il se tourne vers l'Église, parce qu'il dit s'il y a un monde spirituel qui existe, il faut que je trouve des réponses quoi. Donc il s'est tourné vers l'Église, puis finalement d'abord vers l'Église catholique, puis finalement après on s'est rencontrés, etc. Et ben maintenant, aujourd'hui, il est chrétien, il est baptisé, mais pour vous dire que c'est pas anodin quand même ces trucs-là, quoi. Ben voilà, le monde spirituel existe. Hein, si on est chrétien, c'est, on en est convaincu. Il y a aussi les anges déchus qui peuvent utiliser ces pratiques-là pour effectivement révéler une énergie, mais qui est malsaine en fait, hein, et qui accorde quelque part un certain pouvoir. Sinon, ouais. Donc moi, ce que je voulais aussi peut-être dire, voilà, bah, c'est que quand on a des gens bouddhistes, il y a quand même tout un travail à faire, hein, parce qu'on on part pas du tout des mêmes notions, même de Dieu, tout ça. Et ça se passe dans le temps. Et souvent, on va voir, enfin moi, les gens que j'ai rencontrés, c'était plutôt des gens qui étaient attirés par le bouddhisme autant en tant qu'occidental, mais on peut tout de suite leur dire, c'est pas une religion du bien-être. Souvent, c'est ça l'image qu'on a, mais c'est plutôt une religion de la mort de soi, quoi, de mort à ses désirs. Et c'est pas de s'épanouir, mais c'est au contraire de se couper de ses désirs. Et puis aussi, on a des fois l'image d'une religion paisible. Et bon, c'est pas là pour casser du dos sur les bouddhistes, mais tous ne sont pas paisibles. Par exemple, en Birmanie, ils sont très violents, les bouddhistes, envers les autres croyants. Donc c'est peut-être aussi pour simplement les gens qui disent ouais, bouddhisme c'est cool, c'est zen, c'est la paix et tout. En fait, ça c'est peut-être une image un peu édulcorée, mais c'est pas toujours, quoi. Ça peut être très violent. Et finalement, c'est pas l'épanouissement de soi, c'est plutôt la mort de soi, quoi. En gros, quoi.
J'ai une question pour tous ceux qui sont assistés à cet atelier. Est-ce que vous avez dans vos contacts des amis bouddhistes ou de la famille bouddhiste?
Des amis. Toi, t'avais dit, ouais. Ce que j'ai dit, tu le retrouves un peu ou...
En fait, je ne savais pas tout ça. Ouais. J'ai jamais été dedans, quoi. C'est
Moi, j'ai parlé bouddhistes, j'ai essayé de parler de religion avec eux. En fait, c'est un peu compliqué parce que eux, souvent, ils ont c'est pas du tout cette approche. Ouais. C'est plutôt bouddhiste, c'est un style de vie, c'est pas une religion.
Ouais.
C'est à la recherche du bonheur.
Ouais.
Et il n'y a pas cette idée de on se détruit, on perd d'émotion. Du coup, et aussi le fait de parler d'autres religions avec eux, après eux, ils vont nous dire, mais vous n'avez pas de tolérance, c'est quoi cette attitude? Nous, on accueille tout le monde, on aime tout le monde, et du coup, après, on donne l'image qu'on est quelqu'un qui pense qu'il y a un seul bon côté.
Oui.
Du coup, c'est pas évident du tout.
Effectivement, parce qu'en plus, dans ce que tu dis, et c'est une réalité, le bouddhisme est assez englobant, quoi. C'est-à-dire, du moment que tu suis l'enseignement du Bouddha, même tu peux prendre des éléments de la Bible, c'est pas contre, tu vois, c'est ouvert en fait. Et effectivement, du coup, le chrétien peut paraître très très intransigeant, quoi, ou très très arrogant même. Mais du coup, une question aussi qu'on pourrait dire, c'est est-ce qu'on y arrive? Parce que la solution du christianisme, c'est pas de dire on est meilleur que les autres, c'est dire que Dieu lui-même a pourvu une solution à notre problème. Donc la solution, elle vient pas de nous parce qu'on serait meilleur, mais elle vient de Dieu et qui nous l'accorde. Et la question, qui peut atteindre aussi le nirvana, est-ce qu'on est sûr d'accomplir assez pour être débarrassé de la souffrance? Dans le christianisme, la réponse ne vient pas de nous, elle nous est offerte par Dieu lui-même en Jésus-Christ. Et je pense que ça peut être un angle d'attaque, quoi.
Mais c'est vrai que la grosse différence, c'est que dans les bouddhistes, ils sont très centrés sur eux. Ça veut dire que la solution vient d'eux.
Ouais,
alors
c'est
que
ça.
Les chrétiens, c'est en fait on compte sur Dieu.
C'est ça, exactement.
Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très dur à faire comprendre.
C'est
à
vrai.
Les
Et les bouddhistes que tu connaissais, c'était plutôt des occidentaux ou c'était des asiatiques? Ah ouais, d'accord. Et donc c'est vrai que même dans les... Parce que je pensais que c'était surtout les occidentaux qui avaient cette idée très idéaliste, mais aussi les asiatiques. Mais c'est vrai que par exemple, quand le Dalai Lama il vient en France, je veux dire... souvent il fait même une visite à l'Élysée et tout ça, quoi. Alors que, il y a quand même aussi les visites du pape, enfin, c'est plutôt les hommes politiques qui viennent voir le pape, tout ça, mais je veux dire, il y a quand même une ouverture qui est des fois plus. On laisse des fois plus de place au bouddhisme ou comme ça qu'aux autres religions qui paraissent plus oppressives ou plus fermées. Ouais. C'est quand même dans l'image, quoi. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Mais en fait, voilà, c'est quand même. En fait, voilà, ça part de la première vérité, la souffrance universelle. C'est assez pessimiste quand même. Même si, voilà, justement, le bouddhisme est construit pour essayer de répondre à ça, mais c'est quand même un constat terrible. Et je pense que c'est vrai que je l'ai pas noté, mais ça peut être un pont excellent, la souffrance avec le christianisme. Effectivement, le chrétien peut aussi partir du constat qu'il y a la souffrance, mais il n'y a pas que ça, puisque le Seigneur nous après aussi une solution par rapport à la souffrance, c'est une délivrance qui nous est apportée par Jésus-Christ et pas qui dépend de notre propre détachement. Quoi.
Après, moi, il y a beaucoup de bouddhistes qui me disent que par rapport aux religions générales, c'était comme quand on allait voir un film, on a des préférences, film d'horreur, film d'action, etc. Ouais. Et qu'au final, en fait, c'est moi juste regarder un film. Ouais. Le but, il est le même, mais sauf que c'est des façons différentes. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est un peu compliqué.
Donc chaque religion serait une manière différente d'abord d'aller
le bonheur, en fait.
Ouais.
Question
comprise.
Ouais.
Ben là on est déjà dans les questions, ouais. Okay. Merci, ouais. Je dirais, mais est-ce qu'on vraiment peut arriver à ce but, à atteindre Et déjà, quel est le but? On n'a pas le même but, donc c'est un peu difficile pour les bouddhistes. Donc, ce sera d'arriver à se séparer, à ne plus souffrir parce qu'on se sera séparé de tous les désirs, on se sera fondu dans le tout. Et le but chrétien, c'est pas du tout le même, c'est de rejoindre, en tant que notre personne, se trouver dans la présence de Dieu. Donc, je pense qu'il y a quand même des grandes différences qui peuvent dire, c'est pas forcément on n'a pas tous le même but, quoi. Donc c'est pas différents moyens d'arriver vers le même but, parce que même le but n'est pas le même, en fait.
Ouais. Il y a toujours la notion de paix qui revient, genre un état où ouais. On est serein et on n'a plus de problème.
Ouais, c'est vrai, ouais, il y a ça.
Donc peut-être que c'est ça la fin du film. Et,
ah ouais, c'est ça.
Et les différents ouais. Enfin, les différentes manières d'atteindre cet état
de paix diverge, ouais. Mais ouais, mais encore, c'est quand même encore différent, parce que l'état de paix dans le christianisme, c'est je le vis moi-même, alors que dans le bouddhisme, c'est même difficile de parler du moi qui atteint cet état de paix, quoi.
Ça dépend aussi, quand tu parles des bouddhistes, des gens qui se disent bouddhistes, la plupart, c'est pas vraiment des. C'est pas forcément et tout ça, et du coup, mais par contre, quand je parle avec eux, je leur dis je parlais de certains trucs que je faisais, peut-être que des fois je méditais, pas pour le vide, mais pour que tu le pas. Et ils font ouais, mais du coup, c'est une même façon de machin. Et effectivement, eux, dans leur tête, c'est un peu chacun sa façon de faire aussi, c'est un peu dans les bouddhistes permet ça, là, le chrétien permet ça. Et en fait, ils n'ont pas du tout la même conception. Et ils disent ok. T'as un sentiment de paix, moi j'ai un sentiment de paix, mais ce qu'il faut essayer de faire comprendre, c'est que le sentiment de paix, c'est pas la finalité de nous, de la foi. Alors nous, ça fait partie de la vie chrétienne, ce sentiment de paix, mais on n'est pas religieux pour avoir un sentiment de paix.
Leur objectif, c'est d'avoir une vie en même. Parce que moi je connais des bouddhistes pratiquants, ouais. Et eux ils me disent, c'est pas la paix, l'objet, mais c'est vraiment. De faire le maximum de bien sur la terre pour atteindre cet état de nirvana. Du coup, ils ont aussi un but, c'est le nirvana, être
isolé. Ça, c'est vrai, bouddhiste. Vraiment...
Ouais, voilà. Mais alors, moi, ouais, c'est vrai que j'attaquerai dans soit l'angle, quelle garantie tu as de réussir à faire le bien pour atteindre le nirvana? Est-ce que finalement, quand on regarde à soi-même, on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'un sauveur? Parce que à part même dans le bouddhisme peut-être Bouddha et puis des autres qui disent avoir l'atteint, la plupart des gens sont quand même dans l'ignorance de savoir s'ils en ont fait assez, est-ce que leur karma est assez positif, et du coup là moi je pense qu'on peut parler qu'il y a un sauveur, ou alors le fait d'essayer de pointer, c'est plus confrontatif, mais de pointer les contradictions et en disant tout ne peut pas être vrai en même temps.
On peut pas. Après, ça ne deviendrait pas un débat sans fin.
Moi, ben c'est sûr, ouais, ça c'est le risque de dire ouais, ben.
Parce qu'après, c'est aussi une perte de temps et la personne, elle, elle va se dire ah, oh, non, mais je suis pas extrême, je suis pas quoi. Et à la fin, elle ne veut plus vous parler.
Ben ouais, c'est ça, il faut toujours, avec, comme il disait, avec cette culture de dialogue, de l'accueil. Et la dernière fois, quand je discutais avec quelqu'un, alors je sais pas, elle dirait pas forcément qu'elle était bouddhiste, mais c'était quelqu'un adepte de la méditation. Mais j'ai dit oui, mais regarde, quand tu médites, toi tu médites quelque part sur toi, alors que moi je médite sur quelqu'un d'autre, extérieur à soi, parce que je me rends compte que je suis limité tout ça. Et elle a dit, ah, ouais, c'est intéressant, mais finalement, effectivement, c'est assez difficile. Hein, le...
Je pense pour ouais. Apprécier. C'est vraiment important de partir dans un débat. C'est important de savoir, de comprendre l'autre, de challenger un peu, tu vois, posant des questions comme ça. Mais moi je me rappelle, j'avais, quand j'étais étudiant, j'avais 21, 22 ans, la question qui m'a venue, c'était la création et l'évolution. Et tu pouvais rentrer dans un débat sans fin et puis écraser la personne en face. Mais en fait, t'as pas prêché l'évangile, t'as pas chanté Jésus.
Ouais, c'est ça.
Et je pense, c'est un peu la pensée avec ça, c'est. Est-ce que tu, quand tu parles, est-ce que tu es dans l'amour aussi, tu vois, est-ce que tu donnes envie dans ce que tu crois, par rapport à ce que tu es cohérent. Ça, c'est pas juste, je vais à l'église le dimanche, etc., mais est-ce que même, tu vois, genre, moi récemment, j'ai ma plein de collègues, je suis au bout d'un camp chrétien récemment, et je dis, bah, t'es fatigué en ce moment, bah, est-ce qu'on peut prier ensemble à la pause? Et du coup, bah, ça a été la porte ouverte pour un truc qu'elle parle, tu vois, de ce qu'elle croit, etc. Mmh. Des fois, voilà, les je dis pas que l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi par la raison, ne sert à rien, pas du tout. Mais des fois, je pense qu'il faut vraiment bah, ouais, faire comprendre à la personne qu'on l'aime, qu'on apprécie pour qui elle est. Qu'on n'est pas forcément d'accord sur certains trucs, on se défend un peu par rapport à ça, mais c'est pas le plus important. C'est pas la bataille de l'argument. Tu vois. Et c'est vrai que nous, en tant que. Des fois, certains, ils sont un peu plus intellectuels, ou. On aime bien, tu vois, mais en fait, nous, on va tout écraser, on n'arrive pas. Et on aura ouais, bah, vraiment loupé la cible.
Exactement.
Du coup,
je pense que c'est donner envie, tu vois. Par ta vie, par ta manière de vivre, par ta manière de parler, par ton amitié, tu vois. Et que toi-même, tu sois cohérente aussi avec ce que tu dis, tu vois. Enfin, moi, j'aurais du mal, par exemple, à vraiment parler de Dieu si moi-même, dans ma vie tous les jours, je suis pas. Alors, je peux dire que je dis, bah, en ce moment, je vais pas très bien dans la foi, mais voilà. Je pense que c'est vraiment créer une. Moi, c'est des relations. Je tiens plus à des relations. Moi, des fois, on est là, ils me disent bah, moi, mes amis non chrétiens sont plus proches de moi que des amis chrétiens. Parce qu'à l'église, ils ne trouvent pas forcément ce qu'ils recherchent. Je me dis bah, c'est triste quand même, parce que l'église, c'est. Avant, ah, bon, ok, c'est ça, c'est une direction commune, mais c'est une famille aussi. Tu vois. Mm-hmm. Je pense que c'est. Si cette personne, c'est quelqu'un que tu connais bien, tu as une vraie relation avec la personne, et puis. Elle va pas te mettre dans la case, tu sais, justement ce que je disais tout à l'heure, dans la case des intolérants, quoi. Ou des personnes qui détestent les autres, ou qui disent ouais, moi tu te sens supérieur parce que t'es religieux, tu vois. Non, c'est vraiment montrer, bah non, je me sens pas supérieur, pas du tout, mais je crois que c'est ça, tu vois. Et vraiment qu'elle sente ton amour. Déjà, rien qu'elle sente ton amour, je pense que ça fait la différence. Quoi. Alors que lui, elle a peut-être sur ses gardes, et tu fais, mais je te pardonne si jamais je t'ai blessé quand tu fais ça, parce que c'est pas du tout mon but. Et moi, je respecte totalement ta croyance. Content que je puisse échanger comme ça. Et c'est rare, c'est super rare des fois où on peut discuter vraiment tu vois, de manière intentionnelle sur la foi, etc. On peut créer ces occasions, ces cadres voilà, plus facilement dans des amitiés comme ça que dans l'argument, bim, tu vois, et après, paf, ah ouais, il va détruire. Bon, bah,
je suis le chrétien.
Ouais. Mmh, très juste. C'est vrai que j'ai. Tu vois, dans le bouddhisme, en fait, bon, t'as l'individu qui est là et qui essaye de, voilà, de trouver la paix pour être en fait délivré de sa souffrance. Mais dans le christianisme, en fait, il y a pas que l'individualisme qui est là, il y a Dieu qui est là. Et en fait, ça change tout. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la paix avec Dieu. Et, alors que là, bah, finalement, la personne, hein, c'est faire la paix avec elle-même, se comporter bien avec les autres pour son karma, pour son et du coup on est vraiment dans deux modèles très différents quoi et donc les objectifs sont pas les mêmes, la paix, même la définition de la paix, donc la personne veut dire voilà la paix ça va être de pouvoir être capable de maîtriser ses désirs pour ne plus souffrir, Alors que là, la paix, c'est être réconcilié avec Dieu. Donc c'est un modèle, c'est un, enfin, et avec soi-même, et avec les autres aussi autour de nous. Ouais. Du coup, ça nous on est vraiment sur deux choses différentes, et c'est pas évident de faire les ponts. Et alors les ponts, ça pourrait être ouais quand même sur l'éthique, quoi. Il y a le sens de l'éthique, tu vois. Bah, tu veux faire le bien, mais bon, après on pourrait même réfléchir. Tu veux faire le bien pour améliorer ton karma. Moi, je veux faire le bien pour plaire à mon créateur. Et donc, comment tu fais le bien? Et peut-être dire, bah, comme moi, je suis pour faire le bien. J'ai aussi l'aide de Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit qui vient dans mon cœur. Tu vois, ça pourrait être un lien. Ben, tiens, est-ce que tu arrives à faire le bien? Pas seulement pour lui dire qu'elle n'arrive pas, parce que la personne-là, étant créée à l'image de Dieu, elle peut aussi faire le bien. Et donc, dire, voilà, ouais, tu fais le bien comme ça. Moi, je fais aussi le bien pour plaire à mon créateur, et je bénéficie de ressources du Saint-Esprit. Et peut-être poser la question, mais comment tu fais si tu fais le mal? Et si jamais ça t'arrive de faire le mal, et la personne peut dire, bah voilà, mon karma redescend et je vais devoir le payer. Et tu peux dire, bah, moi aussi, il m'arrive de faire le mal. Et voilà. Et ce qui m'aide, c'est que je peux retourner auprès de Dieu grâce au pardon que je reçois de Jésus-Christ. Peut-être travailler en comparaison, mais sans être en opposition, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez difficile parce que c'est quand même deux choses différentes. Deux choses différentes, et le bouddhiste est pas dans une agressivité, bon, sauf peut-être en Birmanie ou comme ça, mais du coup, si nous on vient en étant agressif, on aura déjà perdu, quoi. Et puis c'est vrai que définir la paix, quoi, la paix, qu'est-ce que c'est la paix, voilà. Est-ce qu'on y arrive, et comment on y arrive? Et puis pareil, je pense qu'un des ponts, ça peut être la méditation. Mais c'est pas le même mot qu'on met, donc la méditation de faire le vide et d'être désensibilisé des stimuli extérieurs dans le bouddhisme. Et la méditation chrétienne, c'est pas faire le vide, mais on dirait, c'est plutôt faire le plein. Dans le sens, on se remplit de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, on veut essayer de voir comment on peut l'appliquer. Et peut-être dire, bah tiens, comment toi tu vis un temps de méditation, qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà moi comment je vis un moment de méditation, voilà ce que ça m'apporte. Et je pense que cette dimension de rapport avec Dieu est très très forte, et c'est ce qui manque là. C'est-à-dire que dans la méditation, quelque part, c'est pas juste moi qui me coupe du monde, mais c'est moi qui rejoins Dieu, ou Dieu qui me rejoint. Et donc ça peut interpeller. Ça veut pas dire que voilà personne sera convaincu, mais à mon avis, il y a une dimension très 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 riche si on s'ouvre à la dimension de Dieu. Donc peut-être la méditation, l'idée d'éthique, de faire le bien, et de rechercher la paix. Qu'est-ce que c'est la paix? Comment faire si quelqu'un refuse d'être en paix avec toi? Ça c'est aussi des bonnes questions pour les chrétiens, mais je veux dire, il y a la question de Jésus-Christ qui est vraiment la solution. Quoi. Qui est la solution? Et puis bon, après, je sais pas s'il faut aller vraiment dans des trucs sur est-ce que t'as l'épreuve, la réitération, tout ça, parce que là, on peut un peu agresser la personne dans son identité. Mais si la personne, on la connaît assez bien, on sait qu'elle va pas mal le prendre, on peut peut-être quand même aller là-dessus, dire, moi je crois à la résurrection parce que Jésus-Christ est ressuscité. C'est vrai que là, c'est quand même des trucs un peu assez confrontatif, quoi. Les questions que j'ai mis là, même ça, c'est presque les personnes peuvent se sentir insultées, peut-être. Mais donc, il faut voir dans quel cadre la poser, quoi. Mais c'est comme le christianisme aussi, hein. Des fois, il y a des gens, ils nous taillent, quoi. Donc, on préfère quand les gens le font avec un minimum de politesse, donc faisons pareil, quoi. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'avais mis la diapo d'avant, là. On revient vraiment à quelque part redevoir définir tout ça, parce que c'est pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes conceptions de tout ça, quoi. Là, nous, on pêche devant Dieu, c'est pas juste qu'on alourdit notre karma, quoi. Tout ça c'est différent. Donc c'est vrai que les ponts à trouver sont ne sont pas évidents. Bon, voilà, je suis pas un expert, mais que le Seigneur vous permette d'avoir des dialogues avec les gens. Et quelque chose que j'avais discuté avec un gars que j'avais rencontré en prison, qui était bouddhiste, par exemple, il aimait, d'ailleurs il s'appelait Jean, mais il aimait bien l'évangile de Jean. Et je pense que l'évangile de Jean, qui parle de lumière, qui parle de vie, qui parle tout ça, peut être un pont intéressant. Même si, bon, il affirme bon, clairement voilà, la divinité de Jésus-Christ, etc. Mais c'est peut-être un moyen de dire, écoute, voilà moi ce que je comprends la personne de Jésus, est-ce que ça t'intéresserait de lire quelques chapitres? Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. Voilà, ben ouais. Ben, si vous voulez, on prie que Dieu puisse nous mettre des bonnes paroles pour les personnes qu'on va rencontrer qui sont bouddhistes. Et Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents, et je te prie que dans ta grâce, tu nous donnes les mots, les ponts nécessaires pour parler avec nos amis qui sont bouddhistes, que nous puissions montrer combien ta grâce et l'œuvre de Jésus est exceptionnelle et la réponse pour nous au problème de la souffrance. Et je te prie, Seigneur, que tu nous donnes voilà toute cette sagesse, que tu nous bénisses, que ton esprit en nous aussi développe ton amour pour les gens que nous allons rencontrer et que nous puissions être des témoins fidèles. Amen.